France Musique.
Merci François Bédin. Le mi-temps des musiciens. Renaud. Machard. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette semaine que je vais passer en compagnie de Laurence Equilbet. C'est bien quand les musiciens prennent du temps pour venir nous parler de leur travail. On va être ensemble donc pendant ces 5 émissions qu'on va consacrer au Requiem de Mozart. Il y a une raison particulière à cela, eh bien c'est que Laurence Equilbet, vous venez de sortir il y a 15 jours, c'est sorti le 29 septembre, votre premier Requiem de Mozart.
Oui, bonjour, exactement. Et on est très très heureux de cette sortie, de ce premier disque. Collaboration entre ce nouvel orchestre sur instrument d'époque, Insular Orchestra, et Accentus, qui est un chœur de chambre que j'ai créé il y a déjà maintenant 20 ans.
Accentus, on le connaît bien, mais alors Insular Orchestra, qu'est-ce que c'est que cet ensemble? D'abord, c'est un ensemble d'instruments anciens, vous venez de le dire.
Oui.
Pourquoi ce nom? Il a quelque chose d'insulaire?
C'est vrai que dans quelques mois, années, fin 2016, on sera en résidence dans le nouvel...
Oui.
Cette très très belle cité musicale sur l'île Seguin. C'est le Conseil Général des Hauts-de-Seine donc, qui a décidé d'investir dans ce nouvel équipement qui va être magnifique, qui sera géré par un groupement qui contient TF1, Bouygues et Sodexo. Voilà, c'est un partenariat public-privé, comme on appelle ça.
Voilà. Tant mieux.
Et donc, nous devons aller d'ici un an et demi dans cet endroit qui va être très beau. Et dans la période de préfiguration, on a souhaité effectivement créer une structure, un orchestre sur instrument d'époque. Et j'ai pensé à ce nom.
À cause de Lille, Lille Seguin, du coup.
Tant à cause de Lille, bien sûr, il y a un rapport, mais c'est parce que dans le cerveau, vous avez une petite région comme ça qui s'appelle l'Insula et c'est en plein milieu du cortex et c'est une région dont on sait vraiment à quoi elle sert depuis pas très longtemps en fait, depuis 5-6 ans et elle sert à transformer les sensations en émotions donc par exemple si vous buvez quelque chose vous
ça
buvez et vous dites c'est
vous voulez dire
c'est,
quelque
c'est
chose
délicieux.
D'alcoolisé enfin qu'il y a du goût quoi.
Voilà qu'il y a
voilà.
du goût
oui.
Si vous sentez quelque chose, si vous touchez quelqu'un que vous aimez, ça vous fait un délice, voilà.
Oui, ça m'arrive aussi,
c'est ça qui se transforme
moins souvent que de boire de l'eau, mais enfin ça m'arrive.
C'est ce filtre en tout cas, cette insula qui fait que les sensations se transforment en émotions et je trouvais vraiment beau qu'un ensemble de musique, quel qu'il soit, en tout cas, soit le siège de la transformation des sensations, c'est-à-dire par exemple des sonorités ou des énergies en émotions à destination de ceux qui nous écoutent. Voilà.
Alors Laurence Equilbet, cet orchestre, il va jouer un répertoire qui n'est pas un répertoire proprement baroque, si je ne m'abuse. Vous avez choisi une période historique.
Non, c'est assez radical, en tout cas pour les premières saisons. C'est vraiment un travail sur le siècle des Lumières, la période classique et pré-romantique, juste après la mort de Bach, jusqu'au jeune Berlioz. Voilà, c'est 100 ans de musique qui sont une période vraiment absolument fascinante. Et donc, pour l'instant, on va vraiment explorer tout à fait en profondeur ce répertoire.
Ça correspond à un goût personnel, ça, ou un choix, ou un créneau, je dirais, de
non,
répertoire
en fait,
parce que
oui.
C'est assez quand même fréquenté aussi, ce répertoire. Peut-être pas tant par les instruments anciens, je ne sais pas.
En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, en tant que chef d'orchestre, je suis invité souvent, que ce soit à l'Orchestre de Chambre de Paris, à l'Orchestre de l'Opéra de Rouen, en Normandie, avec des orchestres modernes. Là, je vais à Leipzig, à Noël, etc. Enfin, j'ai des invitations avec des orchestres modernes.
Oui.
Mais de par mon éducation viennoise, mon travail notamment avec Arnoncourt, personnellement, je préfère la période classique, Haydn, Mozart, Schubert, Weber et surtout la musique allemande, sur des instruments d'époque à cause de leurs couleurs tout à fait différentes et des balances. Moi, c'est vraiment une de mes grandes passions, c'est les balances. Des balances tout à fait beaucoup plus faciles à faire et c'est vraiment aussi par esthétique. Et
par
puis,
balance, vous voulez dire l'équilibre, voilà,
les équilibres orchestraux.
Voilà,
alors, ce qui s'est passé, c'est que ces ensembles sur instruments d'époque, en général, ils ont un chef qui ils invitent très très peu les ensembles sur instruments d'époque. Alors, moi, une fois par an, j'ai eu la chance de travailler avec l'Académie für Alte Musik de Berlin, Concerto Köln, ou bien l'Orchestre of the Age of Enlightenment de Londres. Mais du coup, je travaille une fois par an avec eux, ce qui me frustre beaucoup sur tout ce répertoire que j'adore et dans lequel je me sens vraiment bien, notamment le pré-romantisme. Et donc, j'étais vraiment ravie quand le Conseil général des Hauts-de-Seine m'a donné l'opportunité de créer cette phalange nouvelle. Voilà, donc.
Ah bah c'est formidable.
Oui, écoutez, c'est une grande chance.
Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on entende eh bien, tout simplement le début de ce Requiem que vous sortez donc chez votre label Naïve, pour qui vous enregistrez déjà depuis quelques années. Il y a quelques semaines, on vous a déjà entendu dans un autre très beau disque, votre enregistrement de la musique chorale de Richard Strauss.
Ah,
il
oui.
y a eu quelques découvertes pour certains, parce qu'on a eu du courrier, figurez-vous.
C'est vrai, c'est un Himalaya de la musique vocale.
Absolument, je suis entièrement d'accord. Et là, moi, quand j'ai reçu ce Requiem de Mozart il y a quelques semaines, eh ben, je me suis enthousiasmé. Je vous dirai peut-être pourquoi tout à l'heure.
Avec plaisir. Oui.
On l'écoute, le début, c'est-à-dire le Requiem Aeternam et bien sûr le Kyrie Eleison.
Thank you.
Le Requiem en ré mineur, Köchel, 626 de Mozart, faut-il préciser, Requiem aeternam et Kyrie eleison, cette fugue que vous venez d'entendre par le chœur de chambre Accentus et l'Insula Orchestra, dirigé par Laurence Equilbet dans cette version qui vient de sortir il y a quelques jours chez Naïve et que je trouve enthousiasmante pour une raison particulière, c'est que justement, c'est une version qui ne cherche pas midi à 14h, si vous me permettez l'expression de Laurence Equilbet. On connaît d'autres versions qui sont plus extrémistes. On va d'ailleurs s'amuser tous les deux à passer en revue, si j'ose dire. On ne va pas faire office de critique. En tout cas, je ne vais pas vous demander de vous mettre en porte-à-faux par rapport à vos collègues. Mais en tout cas, de voir les options interprétatives, parce qu'il y a quand même des choses qui sont assez singulières. Et d'autres prennent, par exemple, des tempos beaucoup plus rapides dans cette fugue en particulier. Ça peut être tout à fait pétaradant. Vous, ce Requiem, c'est un Requiem classique. Mais c'est ça, justement, qui lui donne sa singularité, c'est qu'il n'essaye pas de se distinguer d'une manière ou d'une autre par des prises de position trop extrémistes. C'est quoi? C'est le travail de longues années de réflexion sur l'œuvre.
Oui,
c'est l'âge. C'est quoi?
Je crois que c'est une œuvre déjà que j'ai mûri depuis longtemps. Hein,
oui.
Moi, en fait, je l'avais jamais dirigée ni enregistrée.
Ah, tiens, oui. Même pas dirigée.
Non, je la réservais vraiment pour le bon moment, la bonne période, et je crois que c'était vraiment maintenant. D'abord, on l'avait beaucoup joué en concert. Il faut beaucoup jouer les œuvres avant en concert pour prendre ce recul. Et ensuite, c'est vrai que le Requiem de Mozart, c'est une œuvre très complexe parce qu'elle est inachevée, comme on sait.
On va en parler, le nombre
de versions d'arrangements est nombreux. Donc, il faut déjà faire ses choix par rapport à ça.
Oui.
Et moi, c'est vrai que j'ai une démarche très historicisante, comme on appelle les baroqueux.
Historiquement informé.
Oui, historiquement informé. Voilà. Mais bon, effectivement, moi, je me situe dans ce sillage. Mais c'est-à-dire que je recherche toujours à savoir ce que le compositeur voulait nous dire, les pratiques d'exécution de l'époque, les enjeux de l'époque, la mémoire collective de l'époque. Enfin, j'essaie beaucoup de savoir quel message on nous transmet là. Mmh. Et alors, ça part du technique et du spirituel. Enfin, c'est une démarche assez longue. Et puis après, effectivement, on est forcément influencé par les 200 ans ou plus qui ont suivi cette œuvre. Et je cherche, en toute modestie, hein, je dis ça, c'est sans prétention, c'est une forme de version universelle, c'est-à-dire où moi, mon ego, me, myself and I, n'apparaissent pas trop dans la vision et effectivement de ne pas créer quelque chose de spécial. Et je sais qu'il y a des interprètes qui s'emparent davantage de la musique. Est-ce qu'on peut faire beaucoup plus naturellement, notamment dans la musique romantique? Mais en tout cas, pour cette musique-là, et surtout pour avoir dirigé notamment la messe en ut mineur à Salzbourg, je sais que les tempi forcément doivent être commodes la plupart du temps parce que c'est souvent des œuvres réalisées dans des églises que la réverbération est très très longue entendre, et qu'il y a le poids aussi de l'éducation baroque qu'avait Mozart, comme avait Beethoven aussi, et tout cet héritage du passé qui est très très important pour eux. Et ils ont tout à fait conscience d'être dans un chaînon dans l'histoire de la musique religieuse. Et c'est pour ça que je pense que la musique religieuse comporte rarement des extravagances. Alors, elle peut avoir vraiment des jaillissements, des choses absolument fantastiques de contraste, et de la portée du message peut être fantastique. Mais au niveau des tempi, on n'est jamais trop dans la novation, en fait,
sens. C'est pas là où ça se situe. Alors, Laurence Equilbet, vous évoquez à l'instant la problématique de cette œuvre qu'on sait, mais on la sait sans vraiment la connaître, au fond. Et j'avoue, moi-même, en faisant quelques recherches avant que nous ne nous retrouvions pour cette première émission, la première de 5 pendant cette semaine, j'avoue que je me suis aperçu que c'était encore plus compliqué que je ne le pensais. Et puis, la musicologie, comme vous l'avez dit, s'est emparée. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On raconte un peu quand même l'histoire.
Si vous voulez,
on raconte l'histoire. Alors, il faut signaler une chose, parce que tout ça est raconté dans une merveilleuse chose qui est sur YouTube. Hein. On peut le trouver ailleurs, on le trouve sur le site aussi, j'imagine,
YouTube
de votre ensemble.
Château de Versailles, et après sur YouTube, sur les sites d'Insula et d'Accentus. Ouais.
Et donc ce sont 5 petits films, 4 films et un épilogue, où vous avez un jeune homme qui est un fan de musique classique, qui vous écrit au début de cette petite série, et qui vous suit pendant l'enregistrement, et vous lui apprenez beaucoup de choses, et beaucoup de choses sont dites dans ces petits films.
Oui,
c'est très très intéressant, mais on va peut-être le redire, on peut renvoyer les auditeurs bien sûr à ces petits films sur YouTube qui les amuseront, mais on peut peut-être quand même rappeler les grandes lignes de la problématique du Requiem de Mozart. Bon, œuvre inachevée. Voilà.
En tout cas, cette web-série, ça s'appelle Journal de bord, logbook. Book de l'enregistrement, donc je vous invite à le regarder parce que c'est vrai qu'il y a, de toute façon, c'est tout à fait scientifique parce qu'on a tout à fait travaillé le scénario avec Florence Badol-Bertrand qui est une grande musicologue, tout à fait spécialiste de cette époque et de Mozart en particulier, donc c'est vrai que ça a été fait à destination notamment de tout public bien sûr, mais des jeunes gens, des grands adolescents, des jeunes adultes qui ne connaîtraient pas tous les secrets du Requiem, toutes les fausses légendes qui ont notamment
été... Tu sais,
notamment véhiculé par ce très bon film que j'adore de Miloš Forman qui s'appelle Amadeus. Oui. Mais c'est vrai qu'après, c'est difficile dans les mémoires de dire mais non, en fait, c'est pas tout à fait ça qui s'est passé. Enfin, donc, bref, pour faire bref, cette œuvre est complètement inachevée. Et donc,
à peu près de Mozart ? La moitié de ce qu'on connaît, à peu près.
Même pas. Ce qu'on vient d'entendre, l'introït et le kyrie, c'est intégralement de Mozart, ça, on en a la certitude. Il y a juste les parties de timbales, trompettes qui ont été arrangées par Süssmayer. Et d'ailleurs, un autre arrangeur de l'époque de Süssmayer, de l'époque de Mozart, avait proposé aussi un autre arrangement. Donc, en tant que chef, on doit choisir quelle partie de timbales, trompettes on choisit.
Oui, parce que Süssmayer, contrairement à ce qu'on croit, n'est pas le premier de la liste, si j'ai bien compris.
C'est même le dernier
de la liste.
Et d'ailleurs, pour une raison tout à fait inconnue. Alors, Constance dit j'étais brouillée avec Süssmayer, je ne sais plus pourquoi elle écrit ça. Et alors, après, il y a des tas de rumeurs qui circulent autour du fait qu'elle lui ait demandé en dernier, ce qui est tout à fait illogique parce qu'il habitait quasiment dans la famille. Hein, donc, après, on a prêté une relation entre Süssmayer et Constance parce qu'il avait accompagné en cure. Et puis, le second mari de Constance, c'est assez amusant, raye systématiquement le nom de Süssmayer sur tous les documents, enfin, il l'efface. Donc, bref, il y a des élucubrations autour de cette histoire. Mais cela dit, donc, c'est vrai qu'avant Süssmayer, il y a eu notamment Freischedler, qui était un ancien élève de Mozart, et qui l'a aidé notamment à compléter l'introït et le kyrie. Et puis, vous avez eu un autre compositeur qui s'appelle Ebler, et puis un abbé qui s'appelle Stadler. Donc, il y a eu plusieurs personnes et qui ont à chaque fois jeté l'éponge, en tout cas. Mais ils ont laissé des fragments, et c'est pour ça que c'est intéressant, notamment dans les fragments d'Ebler, qui sont souvent beaucoup, beaucoup plus fins que ceux de Süssmayer. Quoi qu'il en soit, c'est quand même cette version de Süssmayer qui s'est imposée, qui est bonne, hein, vraiment. Si on la toilette un peu, elle est vraiment excellente. Et surtout, elle s'est quand même imposée depuis 200 ans. Et donc, ça veut dire qu'il y a quand même des vraies raisons de l'adopter. Enfin, en tout cas, moi, c'est celle que j'ai adoptée.
Mais ça, est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle période aussi dans ce rapport à la musicologie ? Moi, je me souviens, il y a 20 ans, 25 ans, tout le monde ne jurait que par la version Beyer. Tout le monde disait du mal de Süssmayer en disant c'est un compositeur vraiment de second ordre. Il faut reprendre ça. Et c'était tout à fait la mode, je dirais, en tout cas, de dire plutôt du mal de Süssmayer. Et là, j'ai l'impression que maintenant, toutes les versions, même sur instrumentation, reviennent tout simplement à Süssmayer.
C'est-à-dire, donc, pour reprendre le cours, donc Introit Kyrie, ça c'est tout Mozart, et après ce qu'on appelle la séquence, et donc dans laquelle il y a les numéros les très très célèbres, le Dies Irae, le Confutatis, etc., le Lacrimosa.
Et le Lacrimosa.
On a souvent que des parties vocales et ce qu'on appelle la basse chiffrée, c'est-à-dire l'écriture des basses avec un chiffre qui résume l'harmonie supposé, en tout cas pas d'orchestration et le Dies Irae, on a uniquement la partie du premier violon, etc. Enfin, après il y a des fragments et puis ensuite par contre Sanctus Benedictus Agnus, on n'a rien. Et alors on dit que pour le Benedictus, on aurait retrouvé le thème sur un cahier d'un de ses élèves. Après il y a des fragments, des feuillets qui ont été souvent cachés par Constance. Enfin, il y a aussi tout un mystère autour de ça. Donc effectivement, Süssmayer a complété beaucoup à partir de ces fragments, de ces feuillets. Et c'est vrai que ce qu'on lui reproche parfois dans l'orchestration, c'est quelques lourdeurs et quelques fautes de style. Et moi, ce que j'ai choisi donc de prendre cette version pour Süssmayer pour la grande forme. Et puis ici ou là, de remplacer par l'orchestration par des fragments d'Ebler. Et puis ici ou là, des actions personnelles, mais je pense que d'autres chefs font aussi, parce qu'ils utilisent notamment beaucoup les trombones, que moi je retire par certains côtés, dans, par exemple le Benedictus, etc.
Des détails plutôt, des petites touches, pas officiellement
de Mozart, mais vraiment par petites touches très très, j'appelle ça bonsaïer légèrement l'orchestration de Süssmayer.
Mais pour la colonne vertébrale de ce Requiem, vous êtes vraiment fidèle au fameux Süssmayer. Alors, en fait, Mozart, comme tous les grands compositeurs, s'est inspiré d'autres musiciens.
Oui, absolument, oui.
Alors, par exemple, Michael Haydn ?
Michael Haydn, oui, qui avait écrit un Requiem en ut mineur aussi et qui a beaucoup inspiré Mozart, notamment pour sa forme globale. Parce que vous savez que dans le Requiem, on n'est pas obligé de prendre tous les numéros. Enfin, il y a une succession de numéros qui varie suivant le compositeur. Donc, par exemple, Michael Haydn, c'est vraiment la structure est quasiment la même de celle de Mozart. Et puis, Mozart était un grand admirateur de Gossec et de Wilhelm Friedemann Bach. Donc, c'est des compositeurs dont il connaissait beaucoup les pièces, et notamment grâce à la bibliothèque du fameux baron von Swieten, là,
ah oui, qui collectionneur, lire, bien sûr.
Ce collectionneur. Et
de
donc,
musique ancienne.
Et... voilà, Mozart avait aussi un rapport à la musique ancienne. D'ailleurs, on vient d'entendre là, dans ce requiem, il y a ce fameux citation du Cantus Peregrinus, là, qui est une vieille mélodie de Pâques. Et ça, c'est toujours intéressant parce que pour Mozart, tout ce qui participe de la mémoire collective, ça concourt à vraiment transmettre des notions de confiance et de sérénité. Et comme dans ce requiem, il y a énormément de contrastes, on passe très très vite de la plainte très très profonde à la sérénité. Je pense qu'il avait aussi besoin de ces pleins chants de temps en temps.
Le plein chant, c'est le soprano,
c'est ça,
tout simplement, parce que ça aussi, c'est aussi un problème d'interprétation. Souvent, c'est chanté comme un grand solo de soprano d'opéra, alors que c'est une mélodie grégorienne.
Je pense que c'est de toute façon une citation très très nette de Mozart à tout ce répertoire grégorien.
Et on va l'entendre d'ailleurs, cette même phrase de plein chant, on va l'entendre dans le Requiem de Michael Haydn, et je vous propose d'entendre les deux premiers mouvements aussi, c'est-à-dire le Requiem Aeternam et le Kyrie Eleison de cette œuvre qu'a enregistré un musicien qu'on connaît comme pianiste, mais qui est le patron de l'Orchestre de Chambre de Lausanne et qui s'est adjoint les services du Chœur de Chambre suisse pour cette version donc, de la Missa pro defuncto archiepiscopo Sigismundo, dit-il dans son latin de cuisine. Mais vous allez voir, ce qu'ils font, c'est pas de la musique de cuisine. Oui.
Thank you.
Laissez là cette messe des morts qui était faite pour un haut dignitaire de l'Église, évidemment, et qui est son requiem, un requiem de Michael Haydn, donc que Mozart a de toute évidence un peu copié. Mais ce qui est intéressant avec les grands génies, Laurence Equilibé, vous ne trouvez pas, c'est que parfois ils copient. On le sait pour Bach, on le sait pour d'autres aussi. Ils vont chercher dans le nid des autres, tel le coucou. Mais ils ont toujours des solutions qui sont meilleures, quoi. Ils ont toujours un génie dans le détail. Je pense toujours à Stamitz et Mozart. Quand on écoute une symphonie de Stamitz, on se dit, si on ne la connaît pas, on se dit, tiens, c'est une symphonie de Mozart. Et puis au bout d'une minute, on dit, non, ce n'est pas du Mozart. Difficile de dire pourquoi, hein, pourquoi ça ne l'est pas. Bon, là, on est dans un autre style aussi. Mais enfin, on entend quand même la proximité avec le requiem de Mozart. Donc c'est assez flagrant.
Oui, c'est vrai, c'est assez flagrant. Mais c'est vrai que les grands génies ont souvent un art de la synthèse beaucoup plus puissant, enfin, notamment dans la musique d'église, qui par essence était une musique où on avait le droit d'emprunter. Enfin, c'était vraiment quelque chose de tout à fait admis d'emprunter à l'ancien style, au style que ça soit la musique grégorienne comme on a vu tout à l'heure, ou les pleins chants, ou même le choral. Et puis
qu'on
ensuite,
retrouve là, on a entendu le plein chant de façon plus claire, je dirais, que chez Mozart.
Alors, c'est vrai que Beethoven disait, lui qui a écrit aussi de la musique d'église géniale, mais il disait souvent que ce qui était nouveau s'engendrait tout seul. Ce qui est nouveau s'engendre seul. Ça, c'est intéressant, mais ça n'empêche que dans ces musiques religieuses et sacrées, de temps en temps, il y a des fulgurances nouvelles. Mais la base était quand même souvent plutôt l'art de la synthèse entre, chez Mozart, des éléments d'opéra, des éléments maçonniques, des éléments savants de toute son éducation classique, etc. Donc, et puis après, son propre rapport génial sur certains passages.
Là, on est dans un style un peu galant, non, dans ce qu'on a entendu de Haydn, Michael Haydn, donc.
Oui, en tout cas, il y a visiblement un emprunt très très fort à la musique ancienne. On a vu les pleins chants des hommes au début. Puis moi, je connais mal cette œuvre, mais en tout cas, je sais que sa structure est très proche de celle de Mozart, mais plutôt dans sa structure. Après, les numéros eux-mêmes, effectivement, sont en tout cas d'une portée beaucoup plus légère que le message qu'apporte Mozart. Mozart apporte une vision de la mort qui peut parfois être terrible, parce que pour lui, la mort n'est pas salvatrice, en ce sens que la mort vous amène au jugement dernier. Et après, on voit. Mais la mort en elle-même n'est pas un personnage comme... Par exemple, chez certains compositeurs, chez Fauré, où elle peut être un apaisement, un aboutissement. Mais en tout cas, chez Mozart, il y a un grand, grand mystère qui existe autour de la mort et qu'il essaye d'exprimer à travers toute cette œuvre. Parce qu'il y a tellement de contrastes, c'est pour montrer précisément le mystère de cette mort.
Laurence Equilbé, on a donc dit tout à l'heure qu'on entendrait d'autres versions de ce Requiem de Mozart. Et puis, la première que vous avez souhaité entendre, c'est la deuxième qu'a fait Nicolas Hardoncourt, qui a été votre maître. Faudrait que vous nous parliez un petit peu de ce grand Hardoncourt, quand même. Grand et paradoxal Hardoncourt, qui est capable de changer beaucoup sa vision des œuvres et des tempi et de tas de choses de ce type-là.
Oui, c'est vrai que moi, je l'ai rencontré dans les années 90 à Vienne, pendant que je faisais des études là-bas. Et j'ai absolument adoré ce personnage, parce qu'il est à la fois complètement, rustique, dans le sens où c'est un quelqu'un qui arrive avec son gros pantalon de velours comme ça, qui est vraiment un physique, un sensitif comme ça, et en même temps un des plus beaux intellectuels qu'on peut rencontrer sur la musique aujourd'hui, une des plus belles réflexions autour du langage musical. Donc ce contraste-là déjà me plaît énormément, parce que c'est aussi quelqu'un de très spontané, qui a beaucoup de confiance aussi en son instinct, qui peut paraître paradoxal avec un scientifique reconnu. Et ensuite, je trouve qu'il a notamment une science des balances extraordinaire, orchestrale, des équilibres orchestraux. Et surtout, je pense que c'est dans les musiciens comme ça qui ont eu cette démarche historicisante, la personne qui est le plus raffinée sur les tempi, enfin vraiment sur les vitesses des morceaux. Et donc, quand on regarde la variété de tempi d'Hardoncourt, je crois que c'est ce qu'il y a de plus riche. Et alors, par contre, on peut lui reprocher parfois un côté un peu dogmatique, c'est-à-dire que quand il est sûr d'un tempo, ben il va vraiment appuyer le trait, il va forcer le trait pour dire voilà, moi je pense que c'est ce tempo. Alors ça, parfois, c'est pour ça que des gens parfois le critiquent, mais en tout cas, ce qu'on peut aussi admirer beaucoup chez lui, c'est son inventivité, et puis le fait qu'il a osé le compromis à une époque où, dans les années 70-80, les baroqueux étaient assez rigides et assez ultra.
Et donc, c'est lui, formations modernes, d'instruments modernes.
Surtout, c'est lui qui a aussi osé mettre des jeunes filles à la place des enfants dans les passions de Bach, par exemple, qu'on lui a reproché à un moment donné.
Oui. Enfin,
en fonction des réalités acoustiques des salles, etc., et puis des réalités sociales aujourd'hui, c'est lui qui a osé les premiers compromis alors qu'il était un des fondateurs. Donc ça, j'aime beaucoup, parce que je pense que cette démarche, elle s'accompagne aussi de compromis.
Il est Jésus et Judas, si je comprends bien un petit peu, pour certains.
Exactement.
Alors, on a choisi la deuxième version du Requiem de Mozart. La première qu'il a faite a été celle qui a lancé, d'ailleurs, la version musicologique Beyer, qui est celle qui a été à la mode pendant petit moment.
Écoutez-moi,
c'est quoi cette version Beyer, d'ailleurs?
Beyer, c'est un musicologue allemand qui est mort récemment, d'ailleurs. Donc, je pense que c'était un musicologue bien connu d'Hardoncourt. Je crois qu'ils ont dû avoir, parce que c'est Hardoncourt qui a créé cette version, ils ont dû avoir avoir une relation très proche sur la réécriture. Et contrairement à ce qui est écrit souvent, que c'est d'usus meilleur amélioré, c'est pas du tout vrai. Il y a énormément de différences, énormément. Et je la trouve très subtile. Moi, j'ai failli la choisir, en fait.
Oui.
Mais je vais vous dire pourquoi je l'ai pas prise. Parce que je pense qu'elle est très, très bonne pour l'enregistrement. Mais je crois que pour les concerts, elle est un peu trop, pas trop raffinée, mais je pense que moins efficace pour l'acoustique réelle, enfin, en live. Donc voilà, mais cela dit, c'est un très, très beau travail. Et y a des différences subtiles dans le Rex, par exemple, où il n'y a pas la réponse des trombones après le chœur. Voilà,
oui,
d'abord,
oui,
etc. Conformément aux fragments, etc.
Bon, oui.
Donc non, elle est formidable. Je comprends très bien qu'à un moment donné, il y a une mode pour cette version. Voilà.
On écoute le début du Requiem de Mozart, donc dans la deuxième version de Nikolaus Harnoncourt, qui dirige le Concertus Musicus de Vienne, son propre ensemble, fameux ensemble d'instruments anciens, le chœur Arnold Schönberg, et c'est Christine Schaeffer que vous allez entendre chanter le thème grégorien dans cet introitus du Requiem de Mozart, Köchel 626. Nicolas Harnoncourt, dans les deux premiers mouvements, si l'on peut dire, du Requiem de Mozart, l'introitus et ce kyrie, cette fugue prise à un tempo assez, on va dire, pesant. Laurence Equilbé, noble, voilà, c'est plus gentiment dit. Laurence Equilbé, j'ai envie de vous provoquer en vous faisant entendre ceci. Une petite provocation, c'est vrai que lorsqu'on fait entendre deux choses assez radicalement différentes. Vous êtes un peu entre les deux, Laurence Equilbé. Ça, c'était Théodore Corensis qui a fait une version assez givrée, j'ai envie de dire, mais que j'aime. C'est pas une version pour tous les jours, hein, comme on pourrait dire, mais c'est une version vraiment intéressante avec des ensembles sibériens et russes.
Visiblement, c'est vrai que ce fameux kyrie.
Alors, qu'est-ce qu'on en fait de ce kyrie ?
Le fameux thème, c'est un thème qui est dans le Messie. Hein. Il existe. Hein. C'est un thème assez. Je pense que même Mendel le tient de quelqu'un d'autre, probablement.
Oui. Enfin, tiens, j'y avais jamais pensé à ça.
Et je crois que Corensis prend plus une vision endelienne, si on peut dire. Hein,
voilà.
Et avec un tempo aussi qui va très bien avec le disque, hein, je trouve. C'est tout à fait possible de le faire comme ça, peut-être la fin un peu plus élargie. Et Harnoncourt, en vieux routier, sait que c'est pratiquement jamais impossible de le faire comme ça dans une église. Donc je pense qu'il a plus la. Et puis qu'il a anobli le thème endelien. Enfin, pas anobli, il a pris un peu de recul sur ce thème.
Oui, voilà. Et on peut se demander comment, d'ailleurs, du temps de Mozart, on jouait la musique de Handel, au fond. Hein, quelle était l'approche stylistique qu'on avait.
Elle était beaucoup lue, surtout.
Pas tellement
pratiquée, non. En Autriche, pas énormément. Enfin, en tout cas, ce n'était pas notoire d'aller au concert. D'abord, la notion de concert n'est pas la même que la nôtre, mais d'écouter beaucoup de Handel, il y avait beaucoup plus de la musique d'aujourd'hui, du temps des compositeurs.
Oui, c'est ça. Eh bien, écoutez, c'est la fin de cette première émission, Laurence Equilbé. On se retrouve demain pour continuer cette exploration du Requiem de Mozart, donc votre version qui sort à la tête de vos ensembles, l'ensemble Accentus, le chœur de chambre Accentus et votre orchestre Insula, je le dirais à la française.
Vous pouvez.
qui sort chez Naïve et qui est absolument formidable. On se retrouve demain pour continuer cette affaire. Merci à l'équipe qui nous entourait aujourd'hui. Jason Taous, Flora Sternadel, que je remercie pour sa collaboration artistique, et Géraldine Prüttner pour sa réalisation.
France Musique.
Oui, il est 14h et donc temps de retrouver Clément Rochefort pour ses dépêches notes.